Good Bowie Trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very Good Bowie Trip. Les 9 vies de David Bowie.
Cette fois-ci, pour le 5e épisode des aventures de David Bowie, nous avons rendez-vous avec l'avatar le plus fascinant de toute sa carrière, de sa période dite berlinoise de l'année 1977, l'homme sans masque, l'homme sans émotion apparente, au visage inexpressif et qui pourtant, de toute sa vie artistique, n'a jamais atteint la même puissance et la même profondeur. Et oui, même si le morceau qu'on vient d'entendre, Speed of Life, était signé par David Bowie, impossible d'y discerner la moindre trace de sa présence. Sa voix est spectaculairement absente de ce titre instrumental qu'il a choisi comme entrée en matière de son album Low, qu'il publie au début de l'année 1977. Bowie, d'une certaine façon, y met en scène son propre effacement, en tout cas celui de son individualité, même si sa musique vibre d'une nouvelle intensité. Alors que se passe-t-il au début de cette année 1977? Eh bien, le vent de la révolution punk est en train de se lever. Cependant, le punk rock en tant que tel n'intéresse pas du tout David Bowie. Il n'y perçoit que la musique de sa jeunesse, en accéléré et en plus bruyant, ni plus ni moins. En revanche, il se sent parfaitement en phase avec le dégoût et le nihilisme des punks. Au sein d'une minorité de jeunes Européens, les plus lucides sans doute, court alors le sentiment qu'on est parvenu, sinon à la fin de l'histoire, du moins à celle d'une histoire. Et cette violente intuition, David Bowie l'a à sa façon anticipée. Je ne peux pas m'empêcher, déclare alors Bowie à un journaliste anglais de l'hebdomadaire Melody Maker, de penser que tout est pratiquement fini. 5 ans plus tôt, grâce à son personnage de Ziggy Stardust, David Bowie a annoncé une forme de chute, de décadence, de nos sociétés occidentales. Ziggy se présentait en effet comme un ange déchu, tombé sur Terre pour y prôner une espèce de dépravation généralisée, d'abandon aux instincts les plus vils, la fin d'un certain monde qui se voulait et se croyait encore naïvement digne et ordonné. Et contrairement aux hippies, David Bowie a depuis longtemps perdu toute foi dans les utopies régénératrices de l'humanité. Il ne croit pas, loin de là, à l'avènement d'un nouvel âge de l'humanité, heureux et bienveillant. Il prédit plutôt au contraire un avenir déshumanisé. Entraîné par son propre jeu, David Bowie s'est d'ailleurs laissé vampiriser par ce personnage de Ziggy et afin d'y échapper, il a ensuite cherché à se mettre en scène sous une autre apparence, plus sobre, celle d'un personnage rétro sorti d'un film muet des années 1920. Il apparaît alors dans des spectacles éclairés par des lumières blafardes, fruit de sa fascination pour le cinéma expressionniste allemand. Il devient alors le personnage de Thin White Duke, le duc pâle et frêle qui chante des mélodies soul, avec un détachement aristocratique, exagérant à outrance une sorte de lyrisme théâtral. Bowie revendique, je le cite, la distanciation du théâtre brechtien. Pour dire les choses simplement, il adopte alors une façon de chanter, de jouer et d'incarner quelque chose, tout en montrant qu'il n'y croit pas, qu'il n'est pas dupe. Il appelle lui-même ce style de la, je cite, « soul en plastique ». Il est alors accompagné sur scène par un groupe multiracial, trois blancs et trois noirs. Alors, c'est une interview qu'il a donnée en 1976, toujours au Melody Maker. « Je n'ai jamais été un chanteur de rock'n'roll, mais j'ai une certaine aptitude à fabriquer un personnage qui incarne un sentiment froid, sans émotion. Un personnage qui, je cite toujours Bowie, est sans doute une amplification de toutes les choses que je ressens vis-à-vis de moi-même. » Comme l'a dit le pianiste anglais Roy Young, qui a participé à l'enregistrement de l'album Low, c'est lui que je cite, Bowie avait rêvé d'être célèbre, d'être le gars qu'on poursuit dans la rue, que tout le monde veut toucher et qui fait hurler les filles. Mais quand ça lui est arrivé, ça l'a dégoûté. Alors, c'est sûr qu'aux États-Unis, à New York puis à Los Angeles, Bowie est allé au bout de son rêve d'être une rockstar internationale et la désillusion est immense. Au fond, qu'est-ce qu'il a récolté ? Un tube sans lendemain aux États-Unis, Fame, et à quel prix ? Son manager Tony DeFreeze lui a siphonné tout l'argent qu'il a pu et Bowie a dû violemment se séparer de lui. De plus, un divorce avec sa femme, furieuse que Bowie ait trahi sa promesse de lancer sa carrière à elle. Alors pour se renflouer, il s'est lancé à contre-cœur dans une tournée en 76. Je vous en ai parlé au cours des épisodes précédents, Bowie s'est transformé en une sorte de reclus, de mort-vivant. Il vit la nuit, il dort très peu, il mange encore moins, il absorbe des quantités faramineuses de cocaïne, il fait peur aux autres comme à lui-même. Et quand, au mois de mai 1976, Bowie débarque à Londres en train à la gare de Victoria, qui est alors l'unique gare internationale à Londres, il faut préciser qu'à l'époque Bowie ne prend jamais l'avion, eh bien il met son retour en scène. C'est un fantôme qui réapparaît, il porte ses courts cheveux blonds lissés en arrière et arbore une chemise noire qui rappelle la tenue fasciste italienne. Debout à l'arrière d'un coupé Mercedes, il salue en levant haut le bras la foule qui a afflué pour célébrer son retour. Le photographe du New Musical Express, présent, prend un cliché. Quelques jours plus tard, une photo et un article paraissent dans le journal intitulé « Heil and Farewell ». Heil, ben, comme Heil Hitler, évidemment, et Farewell, comme adieu. Tout dans cette photo est fait pour donner l'impression que Bowie fait le salut nazi. Le graphiste du journal s'est en effet amusé à greffer à son bras une main tendue qui n'est pas la sienne, pour que l'effet soit parfait. Une pure manipulation qui provoquera la fureur de Bowie, mais bien sûr, l'image et le scandale resteront. D'autant que ces déclarations provocatrices sur les bienfaits du totalitarisme d'une société décadente ont produit leur effet. Oui, Bowie est au bout du rouleau. J'étais, dira-t-il plus tard, dans une voiture que je ne contrôlais plus et qui se dirigeait vers le précipice. Mais la résurrection est proche, elle passera par, je vous le disais, son propre effacement et sa façon généreuse de se mettre au service d'un autre Iggy Pop. We'll be right back.
people, brand new people. There's something to see. Night clubbing, we're night clubbing. Oh, isn't it wild?
Sometimes about something visual.
de pâles rideaux tirés du matin au soir, rien à faire, rien à dire, je vais rester assis et attendre le don du son et de la vision. David Bowie, Sound and Vision, un extrait de l'album Low, sorti début 1977. Un succès à peu près partout en Europe, cette chanson, sauf en France, où le grand public continue à ignorer David Bowie. Étrangement, c'est grâce à un rôle au cinéma que Bowie va commencer à susciter la curiosité de la télévision française grand public. En juin, il est invité du journal télévisé le plus regardé en France sur TF1 à 13h, présenté par Yves Mourousi. Alors Bowie est le personnage principal d'un film qui s'appelle The Man Who Fell to Earth, hein, l'homme qui venait d'ailleurs, où il incarne un extraterrestre qui cache bien son jeu, puisqu'il se fait passer pour un Anglais dénommé Newton. Celui-ci va découvrir au contact des humains le sexe, l'alcool et la télévision hein, qu'il fascine. Tout ça va le corrompre et même le déprimer, alors ça finit extrêmement mal. Bowie a tourné ce film, je vous disais, au Nouveau-Mexique alors qu'il se sentait au bord du gouffre. Non seulement il s'est identifié au personnage, mais de son propre aveu, il a passé 6 mois après le tournage dans la peau de Newton, dont il n'arrive plus à se défaire. Un rôle qui a eu pour lui un effet cathartique et qui a sorti Bowie d'un état qu'il décrira comme maniaco-dépressif. Et on a l'impression que c'est Newton qu'interviewe Yves Mourousi et non David Bowie. En voici un extrait.
Aujourd'hui, sur votre écran de télévision, cet homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie. And you play in this movie, you play part of extraterrestre.
Yes, I think it's an analogy more than anything else.
Un rôle qui doit être captivant. Did you like your part in this movie? Avez-vous aimé votre rôle dans ce film? Vous avez ri quand vous avez regardé les images.
Well, because no time was allowed to show any emotion, and I'd learned to speak by watching television, and so everything was very stunted, and I used to end up in the day with a face that hurt because I couldn't move any muscles.
Et je ne pouvais bouger aucun muscle, je ne pouvais pas bouger mon visage pour cette scène, et ça m'a beaucoup fait rire de la revoir à la télévision. Vous avez maintenant 30 ans, 10 ans de succès, au sommet. Que vous allez changer votre carrière et abandonner la chanson pour le cinéma.
The only change I think that is I'm finding that I'm making is that I'm not doing so much. I'm keeping things a lot quieter.
Je vais essayer de d'en faire un peu moins. Je vais essayer de voyager aussi. This face you present today is the right face now, or you will change again?
I think
so. Vous allez présenter toujours la même figure que vous présentez aujourd'hui. Est-ce que vous allez encore changer?
Well, it's a face that I've had for a long time. I usually am like this, I think.
Je suis comme cela d'habitude. Fini le maquillage.
Well, that was very early. I haven't used a sort of exaggerated stage makeup for a long, long time, for 4 years.
Ça fait 4 ans que j'ai abandonné presque complètement le maquillage outrancier.
Before I was amalgamating the idea of kabuki theater makeup with expressionism and trying to develop something for rock theater. But now I think it's pretty commonplace, isn't it?
Oui, ça a paru très curieux pour les pays occidentaux, mais j'avais une idée de ce qu'était le maquillage dans le kabuki, et c'était surtout pour figurer un certain expressionnisme.
Very good Bowie trip. Mishka Assayas.
Une archive qui en dit long sur le type d'intérêt que Bowie pouvait susciter. Alors évidemment, ça fait partie du charme, si on peut dire, de l'époque, mais la traduction est extrêmement approximative. Rien sur l'analogie entre l'espace extérieur et l'espace intérieur dont Bowie parle pour le film The Man Who Fell to Earth. Alors je reviens au voyage, justement, de Bowie. Il est parti pour Berlin, Berlin-Ouest, évidemment, où, enfermé dans une chambre, il se jure d'arrêter la drogue et l'alcool. C'est la première fois, avouera-t-il en 2003 au magazine In Q, que j'ai pris conscience que j'allais me tuer. J'avais eu des hémorragies, j'avais perdu connaissance, c'était atroce. Bowie a formé une sorte de pacte avec son ami Iggy Pop, qu'il a retrouvé début 76 dans un état semblable au sien. Bowie lui a spontanément proposé de se joindre à la troupe de sa tournée américaine et européenne, dont les concerts commencent d'ailleurs par la projection du film surréaliste de Luis Buñuel et Salvador Dali, Un chien andalou. Et il lui promet qu'ensemble, lui et Iggy, ils vont s'en sortir. Au célèbre studio du château d'Hérouville dans le Val d'Oise, Bowie, Iggy et leurs musiciens se retrouvent en pleine canicule pour enregistrer avant celui de Bowie un album pour Iggy, dont Bowie a coécrit toutes les chansons, notamment le célèbre Night Clubbing qu'on a entendu tout à l'heure. Fondamentalement, dira Iggy, notre amitié, c'est que ce mec m'a sauvé d'une annihilation professionnelle et même personnel, il m'a carrément ressuscité. Bowie, un grand lecteur, a passé à Iggy Pop les lettres de Van Gogh à son frère Théo. Il lui parle de l'idiot de Dostoïevski que Iggy n'a pas lu. Et il a l'idée d'appeler cet album « The Idiot », l'idiot, sur la pochette duquel Iggy arbore un large sourire très peu punk. En effet, Iggy accepte d'être cet idiot, cet innocent, à l'attitude si peu professionnelle qu'elle a suscité l'apitoiement de David Bowie, son sauveur. Bowie qui s'effacera et accompagnera Iggy en tournée au clavier sans se mettre le moins du monde en avant, une des multiples manifestations de sa générosité. Et c'est à Berlin, au studio Hansa, tout près du mur, que Bowie achèvera l'enregistrement de l'album Low, supervisé par son camarade Tony Visconti. Berlin, où lui et Iggy ont pour objectif primordial de décrocher de leur toxicomanie respective. L'album de Bowie s'appelle Low, pourquoi ? Parce que de fait, c'est l'album de la descente. Et sur la pochette de cet album, Bowie apparaît de profil, le regard vide, sous les traits de Newton, le héros de l'homme qui venait d'ailleurs. Always looking left and right. Iggy Pop dans Tonight, une chanson extraite du second album dont David Bowie a coécrit les chansons Lust for Life après The Idiot, album dans lequel on a pu découvrir le célèbre The Passenger, l'unique tube international de Iggy Pop, une vieille mélodie écossaise très efficace, la seule de l'album avec laquelle d'ailleurs Bowie n'est strictement rien à voir. Un album enregistré à Berlin au studio Hansa. Alors on a coutume de parler de la entre guillemets, trilogie berlinoise de David Bowie, composée donc des albums Low, paru début 77, Heroes, fin 77, et Lodger, qui est paru, lui, au milieu de l'année 79. Sans doute y trouve-t-on une approche musicale commune, mais la dénomination est tout à fait abusive, puisque Low, achevé à Berlin, a été entamé en France, au château d'Hérouville. Seul Heroes a été réalisé intégralement au studio berlinois de Hansa, et quant à Lodger, il a été réalisé à Montreux, en Suisse, près de là où habite Bowie, et achevé à New York. Enfin, c'est une manière de dire que ces trois albums ont un point commun essentiel. Ils ont été modelés en profondeur par les sons et la sensibilité froide d'un certain rock allemand. Alors, il faut rappeler que Bowie écoutait déjà, lors de ses longues traversées des États-Unis durant sa tournée américaine, la musique du groupe Kraftwerk, en particulier le titre Autobahn, évocation des longs voyages monotones sur autoroute. Kraftwerk a posé les bases d'un nouveau son électronique répétitif, annonciateur de ce qu'on a pu appeler le rock industriel. Et puis, il y a un musicien anglais avec lequel David Bowie a resserré ses liens au printemps de l'année 1976, j'ai nommé Brian Eno, qui a joué un rôle essentiel dans cette métamorphose de la musique de David Bowie. Alors, qui est Brian Eno? Il a été le pionnier de l'électronique au sein du groupe Roxy Music. Il a publié un album solo, son troisième Another Green World, qui a été très marqué par les sons de cette nouvelle musique inouïe qu'élaborent de jeunes musiciens allemands. À Cologne, il y a eu le groupe Can, le premier à fusionner des rythmes funk, syncopés et dansants avec une certaine dureté mécanique. Et puis Eno a surtout fait découvrir à Bowie un autre groupe méconnu du grand public qui l'a fortement impressionné, c'est le groupe Neu, N-E-U, Neu comme nouveau en allemand. Alors le langage musical de Neu, c'est très intéressant, c'est un langage simple comme réduit à l'essentiel. Le batteur de Neu, Klaus Dinger, a une frappe métronomique à la puissance presque inquiétante. Et puis il y a un guitariste du nom de Michael Rotter qui a créé Neu dans la ville de Düsseldorf, dans la Ruhr, une ville industrielle à l'ouest évidemment, entre Bonn et Cologne. D'ailleurs c'est de là également que vient Kraftwerk. Et puis Rotter s'est parallèlement impliqué dans un autre groupe en s'unissant à un duo qui s'appelle Cluster afin de former un trio du nom de Harmonia dont la musique a été une véritable révélation pour Brian Eno et par ricochet pour David Bowie. Il faut dire que Brian Eno, à l'écoute de Harmonia, a eu une intuition nouvelle. Selon lui, une musique expérimentale d'un genre nouveau est appelée à se greffer à la musique populaire, une musique qu'il appelle la musique ambient. Une sorte de tapisserie sonore se déroulant à l'infini, faite de boucles et de volutes, qui plonge l'auditeur dans une sorte de bain et l'entraîne au cœur d'un décor, ville ou paysage imaginaire, mais de manière insidieuse, sans s'imposer. Un ensemble dans lequel la voix d'un chanteur s'absorbe et se dissout, où elle cesse d'être en somme en surplomb. Alors cette approche, évidemment, fascine David Bowie, qui dans sa vie, comme dans sa musique, cherche à se dissoudre dans une sorte d'anonymat. You're just a little girl with gray eyes. Never mind, say something. Wait until the crowd cries. Oh, wait until the crowd cries. You're just a little girl with gray eyes. Deep in your room, you never leave your room. Something deep inside of me, yearning deep inside of me, talking through the gloom. What in the world can you do? What in the world can you do? I'm in the mood for your love. For your love. For your love. For your love. Oh. I'm just a little bit afraid of you, 'cause love will make you cry. But wait until the crowd goes. Oh, wait until the crowd goes. I'm
rooms, blank blocks and notebooks. Sitting back walls of city limits, lie in bed, coming and going on easy terms. Sons of the silent age, pace their rooms like a cell's dimension. Rise for a year or two, then make war. Search through their one-inch thoughts, then decide it couldn't be done. Silent age, listen to tracks by Sam Therapy and King Dice. Sons of the silent age, pick up in bars and cry only once. Sons of the silent age, make love only once, but dream and dream. Don't walk, they just glide in and out of life. They never die, they just go to sleep one day.
Sons of the Silent Age, une chanson signée David Bowie, extrait de l'album Heroes, où se restaure une sorte d'équilibre entre l'exploration de nouveaux territoires sonores avec Brian Eno et le David Bowie lyrique d'avant. Alors l'intéressant durant cette période, c'est l'indifférence apparente de David Bowie vis-à-vis du succès commercial et de la notoriété. Faut dire, David Bowie a été une superstar, mais il a failli en crever et à présent il se sent un survivant et il est beaucoup plus prudent. Un journaliste qui l'interviewe lui fait remarquer que l'album Low n'a pas été un grand succès commercial. Il lui demande si ça le gêne. Pas du tout, répond Bowie, ça me fait même plaisir, d'une certaine manière perverse. Et il explique, il n'y a aucune raison sur ce point de mettre sa parole en doute, que le succès grand public facile n'a jamais été pour lui une fin en soi. Il veut avant tout enregistrer une musique qui l'épanouisse sur un plan artistique, mais que pour avoir les moyens de la réaliser, il lui faut parfois enregistrer des albums grand public. Un programme que David Bowie ne cessera de mettre en œuvre tout au long de sa carrière. Il faut dire que cette période dite berlinoise est riche en expérimentation. Il y a déjà celle des, entre guillemets, stratégies obliques. Il s'agit d'un jeu de cartes qu'a élaboré Brian Eno avec le peintre berlinois d'origine britannique Peter Schmidt. Quand en studio, Bowie et Eno se trouvent en panne et ne savent pas quel chemin emprunter, eh bien ils tirent une carte. Un jour, lors de l'enregistrement de l'album Heroes, ils s'opposent à propos de l'ajout d'une piste sonore supplémentaire. Eno tire une carte qui dit « Fais en sorte que tout se ressemble au mieux ». Bowie tire une autre carte qui, elle, dit le contraire. « Souligne tout ce qui est différent ». Que faire ? Eux, ils en concluent qu'il faut faire les deux à la fois. Et donc, il faut organiser le chaos. Voilà, c'est QFD. Pour le solo de guitare de la célèbre chanson Heroes, l'expérimentation est d'ailleurs totale. Le guitariste anglais Robert Fripp, rendu célèbre par le groupe King Crimson, vient d'arriver de New York par avion avec sa guitare. Sous l'effet du décalage horaire, il débarque dans le studio. Eno et Bowie lui demandent tout de suite de brancher son instrument dans un système électronique. Je vous passe les détails techniques, de toute façon je ne maîtrise pas. On entend au début de la chanson une sorte de bruit de fond de l'instrument qu'on vient tout juste de brancher. Bowie et Eno décident de garder ce son. Et Fripp joue instinctivement au fur et à mesure de la chanson qu'il découvre. Et c'est cette prise qui va être conservée, la première prise. Quoi d'autre? Eh bien, Bowie, encouragé par Eno, applique également la technique du cut-up, vous savez, l'assemblage de phrases découpées et réassemblées de manière aléatoire, une théorie de l'écrivain américain de la Beat Generation, William Burroughs. Cette technique, il applique également, non seulement aux paroles, mais également à la musique. Ainsi, pour la très belle pièce instrumentale Warszawa, que Bowie a imaginé alors que son train était arrêté en gare de Varsovie, eh bien, Bowie a décidé d'enregistrer des notes de piano anarchiques jouées par le fils du réalisateur artistique Tony Visconti, âgé de 4 ans, et de les recoller instinctivement là où justement ça lui semblait coller, et le résultat a été magique.
Thank you.
Warszawa, sans doute le sommet artistique de l'album Low, signé David Bowie, un titre qui a inspiré son premier nom au groupe Joy Division. Low, un album qui a influencé toute une génération de musiciens, en particulier ceux de ce que on a appelé l'après-punk. Un mot encore sur les conditions de vie de David Bowie à Berlin, qui sont loin, comme on pourrait l'imaginer, d'être glamour. À Berlin, il habite au-dessus d'un garage qui vend des pièces détachées. Il va déjeuner au bistrot du coin, il se balade sur son vélo de course, vêtu d'un coupe-vent vert olive et coiffé d'une casquette champêtre. Monsieur tout le monde, en somme. Alors, Berlin-Ouest, en ce temps-là, faut quand même savoir ce que c'était. C'est Bowie qui le dit, c'est un film en noir et blanc, une ville, dit-il, remplie de bars, fait pour des gens tristes et sans illusions. Faut dire que la vie à Berlin-Ouest est dure, bien plus dure qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui. Et à ce sujet, le hasard de mes recherches sur la toile m'a fait découvrir le témoignage très éclairant d'un journaliste new-yorkais, Peter Hockenos, qui suivait des études de sciences politiques de Berlin-Ouest du début des années 80. Alors c'est quelques années plus tard, mais enfin, il y a toutes les raisons de penser que c'était strictement semblable à ce qu'était Berlin-Ouest pendant le séjour de Bowie. Alors, ce journaliste a publié il y a quelques années un livre qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français, Berlin Calling, c'est une histoire de l'underground artistique berlinois à partir du début des années 60. Je vous résume une partie de son témoignage dévolu aux conditions de vie des jeunes berlinois marginaux de l'Ouest. La plupart de ces jeunes vivaient dans des appartements collectifs, les immeubles étaient délabrés. Quand on montait l'escalier, il y avait des trous dans les murs, pas de salle de bain dans les chambres, et pour faire ses besoins, il y avait des WC collectifs. On se chauffait au charbon, dans des poêles en céramique, mais comme l'isolation était inexistante, on se gelait malgré tout en hiver. Il y avait très peu de choses à acheter dans les supermarchés, on s'achetait des pâtes et une boîte de sauce tomate, et c'était tout. La seule offre de restauration, c'était le kebab du coin. Et c'était l'Ouest, hein, c'était l'Ouest capitaliste et pas l'Est que je vous décris là. Et à travers le toit délabré du studio Hansa, eh bien David Bowie et ses compagnons aperçoivent pas loin la tourelle d'un mirador et un soldat armé côté est. Bowie, durant cette période, découvre également les conditions dans lesquelles vit la communauté turque à Berlin. D'ailleurs, il fait des dessins et des peintures inspirées de tout ça. Il entend de la musique du Moyen-Orient, même si, évidemment, la Turquie n'a rien à voir avec le monde arabe. Il n'est pas interdit de penser que certains sons entendu dans ce contexte, lui ont inspiré ce titre, fruit d'une improvisation avec ses musiciens, The Secret Life of Arabia. Yeah.
Very Good Bowie Trip sur France Inter.
Heroes de David Bowie, évidemment tout le monde ou presque connaît ça, une chanson qui a eu beaucoup plus de succès tout autour du monde quand elle a été massivement rediffusée en 2016 à la mort du chanteur que à sa sortie en 77. Elle a en tout cas été totalement ignorée en France, où de toute façon David Bowie n'a pas eu un tube avant Let's Dance en 1983, exception faite peut-être de Ashes to Ashes en 1980, un succès oui mais enfin pas dans les mêmes proportions. Alors beaucoup le savent, Heroes La chanson est censée évoquer un couple uni miraculeusement, l'un vit à l'ouest, l'autre à l'est, et bien sûr le mur les sépare, alors leur réunion est un défi, un rêve, un fantasme, voilà, ils sont des héros juste pour une journée. La légende veut que David Bowie ait regardé par la fenêtre du studio et qu'il ait vu au loin le résident artistique Tony Visconti embrassait contre le mur la choriste avec laquelle il avait une liaison, et c'est cette image qui lui aurait donné l'idée du thème de la chanson. Visconti a ensuite raconté que cette histoire était inauthentique, qu'elle était née dans l'imagination de Bowie, qu'il n'avait jamais embrassé personne ce jour-là, que ça pouvait pas être lui en tout cas. Ce démenti avait en fait pour origine une raison extrêmement terre-à-terre, très triviale, c'est que Tony Visconti était alors marié à la chanteuse anglaise Mary Hopkin et il avait évidemment pas intérêt à ce que cette histoire de baiser soit authentique. Voilà, voilà une histoire charmante, si on peut dire, qui conclut cet épisode des aventures surprenantes de David Bowie. C'est tout pour cette fois.
Very Good Bowie Trip, une série de Mishka Assayas sur France Inter.
Prochain épisode, la renaissance la plus inattendue de David Bowie, le rocker décadent et l'extraterrestre dépressif, se sont effacés, laissant la place à un crooner souriant, chic et funky qui devient une star internationale aussi consensuelle qu'inattendue.